Europe 1, 9h, 11h, le club de l'été.
Thomas Hill.
Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue au club. Quel bonheur d'être avec vous chaque matin jusqu'à 11h pour pimenter votre été. Et aujourd'hui, nous recevons un homme qui respire un petit peu mieux depuis quelques semaines maintenant que les théâtres ont rouvert leurs portes. Metteur en scène, réalisateur et scénariste, on lui doit notamment Palace ou Bref de comptoir. Il dirige aujourd'hui le théâtre du Rond-Point. Bonjour Jean-Michel Ribes.
Bonjour.
Bienvenue dans ce club de l'été. Vous êtes avec nous jusqu'à 11h. On parlera bien sûr de votre nouvelle création qui démarre à la rentrée, mais aussi de votre carrière, de vos vacances. Et puis, on va vous tester tout à l'heure avec un petit blind test. C'est la tradition dans cette émission. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter la distribution de notre petit spectacle quotidien. D'abord, la reine Marjo, Marjorie Adelson.
Ah, vous savez comment me parler, Thomas. Bonjour.
Quel est votre programme?
Eh bien, on ira dans le Lot avant de partir du côté de Aix pour une expo sur l'Égypte ancienne.
Formidable. Et puis, dans le rôle du Barjo, Joe.
Oui.
Joe Hume. Salut Joe, comment ça va?
Ça va super.
Alors, on va parler de quoi avec vous aujourd'hui?
On va revenir sur quelques-uns des tubes les plus emblématiques qui ont rythmé nos étés depuis pas mal de temps.
Depuis longtemps. Avant 10h, notre invité média sera le présentateur du journal de 20h de TF1, Julien Arnaud. Il nous racontera les coulisses d'un JT de l'été. N'hésitez pas à réagir à cette émission avec le hashtag Europe 1. Merci d'être avec nous. Le club est ouvert jusqu'à 11h.
Europe 1, 9h, 11h, le club de l'été. Thomas Hill.
Alors Jean-Michel Ribes, on est très heureux de vous recevoir parce que vous êtes pour le mélange des genres, mélange du rire et du sérieux. C'est exactement ce qu'on tente parfois, maladroitement, de faire ici.
Vous et puis Shakespeare aussi, c'est la même chose.
C'est vrai?
Oui.
Ah, ça fait plaisir, c'est une belle filiation. Vous dites...
Mais la pression.
Oui, un petit peu. Vous dites que l'esprit de sérieux tue la pensée,
oui,
carrément, et qu'il faut arrêter de penser que seuls les gens sérieux font de l'art, c'est ça?
Oui, non, mais les gens sérieux ne font pas de l'art. L'art, c'est une lutte pied à pied contre les choses établies, contre ce qui nous ennuie, contre les formatages, contre les morales définitives. L'art, c'est une issue de secours. Quand vous allez dans un musée, si vous voyez que tout est possible, il y a des...
Ouais.
Comme ça, on va vers les étoiles.
Et le rire, c'est votre issue de secours à vous?
Le rire de résistance, il y a un rire collabo qui est un petit peu pénible, il y a des ricaneurs qui sont épuisants. Mais il y a vraiment des gens qui ont apporté une libération, autant que les Américains qui débarquaient en Normandie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait tomber des dictatures, qui ont ridiculisé des pensées uniques, etc. C'est vrai que le rire, c'est quelque chose qui est... c'est un désinfectant.
Le rire de résistance, ça c'est un terme que vous utilisez depuis longtemps. Hein. Vous avez même tout un programme qui existe depuis 15 ans au Théâtre
du
Rond-Point.
Oui, j'ai fait deux grandes encyclopédies très savoureuses et très drôles qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies.
Et ça veut dire que pour vous, le rire, il doit toujours être engagé politiquement?
C'est pas politiquement, c'est engagé contre quelque chose, contre le poids du monde, contre les choses qui nous formatent, c'est une partie de la démocratie, de la liberté. Vous savez, les dictateurs en avaient tellement peur que Staline avait vraiment peur des gens qui étaient, disaient de l'humour sur lui, et il disait un pays vraiment heureux n'a pas besoin d'humour. Vous voyez à quel point ça l'a agacé.
Ouais. Et justement, dans le cadre de la saison 15 de votre programme Rire de résistance au Théâtre du Rond-Point, c'est là que vous présentez votre nouvelle création qui s'appelle J'habite ici, à partir du 3 septembre. Pièce en 12 appartements, une concierge dans l'escalier et une rue devant. Donc ce sera une sorte de galerie de personnages, de portraits, comme vous les affectionnez souvent, c'est ça?
Oui, une galerie, mais ils sont reliés entre eux. C'est quand même une histoire qui se passe entre les gens. Et c'est vrai, c'est un peu une espèce de reflet de notre époque, sans avoir l'air de donner des leçons ou d'être justement sérieux, mais c'est plutôt une critique du marécage de la bien-pensance actuelle.
J'ai vu que vous alliez parler notamment des bienfaits de la côte de bœuf et de la mayonnaise sur les véganes.
Oui.
C'est ça? Ils vous énervent, les véganes?
Non, ils ne m'énervent pas, mais je ne veux pas faire partie de leur bande.
D'accord, très bien.
Non, mais il y a plein de choses. Il y a les amours dans la police, il y a comment écrire un maire idiot si on veut sauver sa ville. Il y a plein d'endroits comme
comment
ça.
Comment érotiser l'ensemble d'un ministère?
Oui, ça c'est très très bien. Ça c'est très très bien et ça me semble être une chose utile.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on montre dans la pièce que l'érotisation complète d'un ministère lui permet de fonctionner à 30% mieux.
Ah oui, c'est pas mal quand même.
C'est pas mal. Bah, ça voudrait dire que ça fonctionne à 30%. Quoi,
ouais, c'est ça, c'est déjà pas mal. Vous dites finalement que l'humour est la seule issue possible. Vous nous l'avez dit, le message de la pièce, c'est de rire malgré tout et par-dessus tout. Hein, finalement, pourtant, ces derniers mois, on vous a vu plutôt en colère. En colère contre la fermeture des lieux de culture, des salles de spectacle en particulier. Là, j'imagine que la colère est un petit peu redescendue maintenant que vous pouvez rouvrir ces salles.
C'est-à-dire que j'étais étonné parce que on avait décidé, sans analyser vraiment nos cas, qu'il y avait du monde, donc on ferme. Or, il n'y avait aucun cluster. Tous nos établissements, je parle pour les cinémas, pour les théâtres en tout cas, étaient extrêmement bien sécurisés. Et on s'est aperçu au bout d'un moment, en rentrant dans le sujet vraiment, qu'il n'y avait pas de cluster. C'est-à-dire que dans une salle de théâtre, il y a beaucoup d'issues de secours qui sont reliées à l'extérieur. On ne se marie pas, on ne fait pas d'enterrement, il n'y a pas de dîner de famille et on ne parle pas. Donc normalement, à part les acteurs qui parlent, moi je suggérais qu'ils prennent leur température sur scène toutes les 10 minutes, mais ça n'a pas été accepté.
Ça dépend de la technique.
Oui, mais non, je plaisante, mais non. Et puis maintenant, Roselyne Bachelot a bien compris qu'il y avait peut-être un peu plus de souplesse à apporter à tout ça.
Ouais.
Et maintenant, voilà.
Et le pass sanitaire, au final, ça vous semble une bonne solution ?
Très bonne solution. Moi, parfait. Je suis très clair. Le pass sanitaire, on ne pourra pas s'en sortir. Moi, je suis pour la vaccination totale.
Obligatoire pour tout le monde ?
Oui, obligatoire. Non, mais pourquoi on oblige les gens avec le BCG ou la variole, etc. et pas ça ? C'est quand même une épidémie qui tue des gens, qui tue des gens. Je suis effaré par les discours de crétins, c'est même plus que ça, ça n'a pas de nom, qui hurlent en disant que c'est la dictature, etc. C'est incroyable. C'est-à-dire que c'est leur vie qui est en jeu. C'est leur vie. Je ne comprends pas du tout ça. Et puis la récupération politique de M. Philippot et Mélenchon est honteuse.
Ouais, ouais. Bon, en tout cas, ce pass sanitaire, il vous permettra d'aller voir cette nouvelle création « J'habite ici », à voir du 3 septembre au 17 octobre. C'est au Théâtre du Rond-Point. Et puis je crois qu'une tournée suivra, hein, normalement.
On doit tourner 10 ans après, parce que comme c'est un chef-d'œuvre, ce sera demandé.
10 ans de tournée.
Très bien.
Partout dans le monde.
C'est bien si on est engagé sur ce spectacle. On a 10 ans d'intermittence.
On veut bien le Tyrol. Dans un instant, vous aurez le droit, Jean-Michel Ribes, à votre portrait sonore. Mais d'abord, c'est la tradition dans cette émission. On écoute une chanson que vous aimez particulièrement. Vous avez choisi Vianney. Vous nous expliquerez pourquoi dans un instant. Mais d'abord, on écoute son titre, Beau Papa. Sur Europe 1. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin.
J'avais pas prévu d'un jour adopter mon enfant. J'ai dû surtout m'adapter. Y a pas que les gènes qui font les familles. Des humains qui s'aiment suffisent. Et si l'inverse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'averse nous touche, toi et moi, prends ma main de beau papa. Je t'attendais pas, je te laisserai pas. Même sans le même sang, on s'aimera. Non, je ne volerai jamais la place du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage et c'est ainsi que tu es belle. De vous à moi, c'est moi j'avoue qui me suis invité. Dans sa villa, dans la vie où elle n'a rien demandé. Et si l'averse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'averse nous touche, toi et moi, prends ma main. Adopté en vérité nue, c'est toi qui l'as fait. Y a pas que les gènes qui font les familles du moment qu'on s'aime. Et si l'averse nous touche, toi et moi, on la traverse à deux, à trois. Et si l'averse nous touche, toi et moi, prends ma main, dis, prends-la.
C'était Vianney avec Beau Papa sur Europe 1. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre, Jean-Michel Ribes ?
J'ai choisi Vianney surtout.
Ouais.
Et ce titre, je trouve, c'est une chanson courageuse, originale. Et puis Vianney, c'est un souvenir parce qu'à ses tout débuts, il est venu, on avait fait un débat avec Télérama, il y avait des artistes qui débutaient invités, il était venu au rond-point chanter. J'avais été très séduit par ce jeune homme.
Ouais. Et son très brillant.
Oui, en même temps, son charme, et cette grande gentillesse qu'il a. Il ne faut pas aller plus loin, parce que là, ça va, il est gentil, mais il ne faut pas qu'il devienne le gentil, gentil, épuisant, tout est bien, tout est beau, on vous adore, on vous aime. Ça, c'est très agaçant. Ouais. Mais là, il est gentil comme il faut.
Ouais, c'est parfait. Allez, maintenant, on va dresser votre portrait sonore.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
Le portrait sonore, cher Jean-Michel, ce sont de petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier.
Petit problème dans un palace, pas de panique, voici Lady Palace, Lady Palace.
Hello les amis! Beaucoup d'entre vous me demandent s'ils peuvent péter dans un palace. Ils redoutent le bruit, l'odeur et même le petit inconvénient qui consiste à chier carrément dans sa culotte quand on mesure mal les conséquences d'une poussée trop franche. Je vous rassure tout de suite, oui, on peut péter dans un palace.
Voilà, ça c'est magnifique. Palace sur Canal+, puis sur Antenne 2, créé avec votre complice, hein, Roland Topor. Et puis là, on a entendu Valérie Lemercier. Lady Palace, c'était un des grands personnages. C'était là aussi une galerie de portraits. Et c'était formidable, Palace.
C'était là encore grâce, je dois dire, à la fois à Christian Fechner, qui a été un producteur d'une générosité incroyable, et surtout Pierre Lescure, qui a permis que ça se passe, parce qu'aucune chaîne n'en voulait. Et quand Canal a dit oui, tout le monde est venu. Mais c'était des envies. C'était ce qui nous faisait rire entre nous, chez nous. Voilà, on n'avait pas de marketing, on n'avait pas de... La seule chose que j'avais demandé, c'est que ça ne parte pas de l'actualité. Parce que quand tout d'un coup, on se moque d'Edith Cresson, 5 ans après, on ne sait plus qui c'est. Mmh. C'est bon. Et Lady Palace, Valérie Mercier, elle a débuté là. Je l'avais trouvée comme ça, dans un flot de figurants qui voulaient à un moment venir faire un film avec moi avant. Et j'ai trouvé tout de suite quelque chose de génial dans cette fille. Et on lui a tout de suite proposé de faire ça. Et on a écrit avec Roland pour elle.
Vous disiez, vous évitiez l'actu pour éviter que ça vieillisse. D'ailleurs, ça a même été publié, les textes de Palace. C'est-à-dire le succès. C'était publié chez Actes Sud en 99.
J'ai pris des cours de théâtre plus tard, en semi-pro, mais au collège. Ouais. Et on jouait Palace à la fête de théâtre de fin d'année de l'école.
C'est dingue.
Mais on a infecté beaucoup d'établissements scolaires.
Ouais.
Ça, c'est plutôt bien.
Non, mais oui, Palace dans les établissements scolaires, c'est quand même...
Et vous l'avez fait sur scène après aussi.
Oui, alors ça, je l'ai fait il y a 2 ans sur scène. Enfin, on a fait une adaptation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en vérité, c'est surtout avec Merci Bernard. Quand on a fait Merci Bernard...
Alors ça, c'était avant Palace.
Oui, c'était avant Palace.
Sur France 3.
On n'avait pas un rond, vraiment. C'était, on faisait ça avec Villeray, tout ça, Pieds-Plus, qui venait presque gratuitement. Ouais. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils avaient dit « Allez-y, le socialisme arrivait, on était libres. » Et ils n'avaient pas vu venir. La première émission, c'était la journée d'un exhibitionniste à Paris. Et la panique, la direction nous appelle. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez fait faire ça? C'était trop tard.
On avait cassé la vie. C'était un démarrage en fanfare. Ouais.
Et tous les jeunes ont afflué. Et c'est pour ça que j'étais dans les coups.
Ben ouais.
Allez, deuxième extrait de votre portrait sonore.
T'es bien rentré hier soir?
Je sais pas comment on est rentré, mais on est rentré.
C'est moi qui t'ai ramené.
Tu m'as ramené?
C'est André qui m'a dit que je t'avais ramené.
Et les grands brûlés, on leur prend la peau des fesses et on la met sur la figure. Moi, je fais plus la bise, je serre la main.
Tiens, là la belle.
Vaut mieux être belle et rebelle que moche et remoche.
Mais c'est facile d'être jeune à son âge.
Julien, il est con comme la lune et jamais une éclipse.
La brève de comptoir, c'est extrait du film, hein, adapté de ces brèves qui ont été recueillies par milliers, par Jean-Marie Gouriot, qui devait passer un temps fou dans les bars.
Alors, c'est vraiment le coup de génie de Gouriot, les brèves, vous savez, c'est vraiment Gouriot au départ, c'est-à-dire qu'il a eu la sensation que, en écoutant finalement ces lieux où il y avait un langage populaire réinventé, des gens qu'on avait oubliés, qui étaient seuls, qui venaient dire leur vie, parler dans cet endroit qu'est le bistrot, où ils pouvaient parler, alors ailleurs ils ne le pouvaient pas. Il s'est aperçu qu'il y avait une espèce de génie de langage, d'approximation de la réalité.
Et de
fulgurance, il l'a noté. Alors, Duchamp disait l'œuvre est faite par celui qui la regarde. Avec Gouriot, on peut dire l'œuvre est faite par celui qui l'écoute.
Ouais. C'était magnifique, ça. Brève de comptoir. Et je vous invite à lire, hein, les recueils, parce qu'il y en a énormément.
Il
en
oui,
a fait des
oui,
dizaines.
Il y en a
il y a des bijoux, là.
Oui, il y a tout qui ressort là chez Bouquin. Tout.
Très bien. Allez, troisième extrait.
Je me suis dit, je vais lui faire lire l'accident du charcutier.
Bonne idée. Il a aimé?
Il a été formidable. Il m'a dit, Jacques, tu devrais commencer par le début.
Le début.
Apprends à lire avant d'écrire.
Voilà, c'est Philippe Corsan et Lionel Abelansky dans votre pièce, Théâtre sans animaux, composé de 8 scénettes. Vous recevez le Molière du meilleur auteur francophone, ainsi que le Molière de la meilleure pièce comique. Pour cette pièce, c'était en 2002, là, c'était la consécration. Là.
Oh non, c'était pas la consécration, c'est toujours des médailles en chocolat, ça fait plaisir. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y avait des comédiens formidables, dont Annie Gregorio, d'ailleurs, qui va jouer dans... aussi j'habite ici.
Ouais.
Et c'est vrai que c'était des scénettes, mais qui étaient reliées finalement par un ton, par l'absurde. Il n'y avait absolument rien, encore une fois, dans la réalité. C'était pas une espèce... Vous savez, c'est comme les auteurs qui écrivent « Oh, on a trouvé un sujet formidable dans le journal, la pollution à Rome, la guerre en Afghanistan, on va écrire là-dessus. » Là, ça sortait de nulle part. C'était des choses qui me venaient. Je suivais les personnages qui m'apparaissaient.
Et c'est vrai qu'on souvent ce que vous faites finalement, si on résume un peu, c'est un peu votre style, entre Palace, Brève de comptoir, Théâtre sans animaux, ou même J'habite ici, là, c'est toujours des scénettes, presque des sketchs même, que vous reliez entre eux et avec un fond sociétal.
Oui, c'est vrai, des sketchs, c'est peut-être pas exactement ça, mais je pense, si vous voulez, qu'à partir du moment où les choses touchent à l'absurde, ça peut pas s'étendre pendant trois quarts d'heure.
C'est ça.
L'absurde, c'est assez fulgurant, et il faut que ça reste, ça rebondisse sur une autre scène absurde, etc. Mais ça fait un ensemble. Par exemple, J'habite ici, tout est relié ensemble. Il y a la reine de l'immeuble qui est Annie Gregorio, la concierge, et qui bat la mesure.
Très bien. Alors, dans un instant, Joe Hume va maintenant plonger nos oreilles en vacances. C'est assez technique à faire, mais c'est un professionnel de la discipline, n'est-ce pas ?
Tout à fait. On se retrouve dans quelques instants et on retourne en vacances pour celles et ceux qui sont revenus. Je vous y emmène à nouveau, mais en musique.
Allez, à tout de suite, Europe.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
La suite du club de l'été jusqu'à 11h et on avait envie dans ce club de l'été de revenir sur des musiques qui ont marqué nos vacances. Et aujourd'hui, Joe Hume se sent comment ? Un petit peu cœur au séance.
Oui, voilà, je ne vais pas vous mentir Thomas, je me sens très très bien à vos côtés, mais j'ai quand même très envie de retourner me dorer la pilule au calme.
Ah, très bien, je ne le prends pas personnellement, hein, pas de problème.
Est-ce qu'il y a, Jean-Michel, des morceaux qui vous transportent instantanément sous le soleil en vacances, qui vous évoquent l'été et le plaisir de ne rien faire?
La côte de bœuf.
Ah oui, c'est un bon morceau. Ouais.
C'est un excellent morceau, effectivement. Moi, il y a des chansons qui clairement, dès les premières notes, arrivent à me plonger dans le relax, à me persuader que je suis allongé sur le sable et que je me laisse bercer par le bruit des vagues.
Just a silly face. Oui. On est toujours à l'antenne là.
Ah bah pardon.
Tu peux continuer.
Pardon, j'étais parti un petit peu loin là, effectivement. Mais comment ne pas Tennessee, I'm Not in Love, été 1900. 75, celui du Sud de Nino Ferrer, des Mots bleus de Christophe et même de L'été indien de Joe Dassin.
Ah ouais, y a quand même des étés plus généreux que d'autres en termes de tubes. Hein.
Effectivement, L'été indien, un morceau adapté de l'anglais pour Joe Dassin par Claude Lemel et Pierre Delanoë. L'original, Africa, du groupe Albatros, raconte l'histoire d'un homme noir vivant aux États-Unis, se disant qu'il n'a absolument rien à faire ici et qui préférerait retrouver l'Afrique.
Ah oui, donc absolument rien à voir.
Ah bah non, là... La musique, c'est exactement la même, mais les paroles, ça n'a rien à voir.
Ça, c'est Africa.
Ça, c'est Africa du groupe Albatros. Après, si les paroles étaient restées fidèles au morceau d'origine, ouais. Je ne suis pas certain que Joe Dassin aurait été extrêmement crédible en racontant à la première personne la vie d'un homme noir qui souhaite retourner en Afrique et fuir les États-Unis. Mais du coup, l'expression « l'été indien » a littéralement été importée des États-Unis par Pierre Delanoë qui, pendant un voyage aux USA en octobre 1974, donc un an avant l'écriture de la chanson, fait remarquer à son chauffeur de taxi, dit « Donc, monsieur, il fait quand même très chaud ici. » Ce à quoi le chauffeur répond « Ben oui, évidemment, monsieur, ici, c'est l'été indien.
Ah. » On ira où tu voudras, quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort.
Et le succès de la chanson de Joe Dassin est tel que le terme « été indien » va peu à peu remplacer celui qui était utilisé jusque-là, qui était l'été de la Saint-Martin.
L'été de la Saint-Martin.
Ouais, l'été de la Saint-Martin.
Les gens disaient ça avant.
On disait ça avant l'arrivée de l'été indien. Jour.
Comme quoi, il faut prendre les chauffeurs de taxi à New York plus souvent.
Exactement. Il faut les prendre au sérieux. Et effectivement, il faut les prendre plus souvent, parler avec eux. Et on revient avec des expressions qui modifient un petit peu... Qui change un petit peu la langue française. Ce qui aurait néanmoins pu fonctionner en France si on avait gardé la Saint-Martin, parce que aux couleurs de la Saint-Martin,
ça marche aussi, ça fonctionne. Ça marche peut-être, mais avec Joe Dassin, peut-être pas avec Joe Humorvan.
Alors vous vous moquez Thomas, effectivement, je le comprends, je ferais pareil si j'étais vous, mais la version italienne s'appelle L'estate di San Martino.
Ah ouais.
Donc c'est Joe Dassin lui-même d'ailleurs qui s'y colle et qui chante mieux italien qu'un italien.
E mi ricordo, sì, mi ricordo molto bene di quello che ti ho detto quella volta. Era un anno fa, un secolo, un'eternità.
Je me demande si je préfère pas la version italienne.
C'est génial.
Ah ouais, c'est vraiment. Il y a quelque chose d'extrêmement romantique dans la manière dont il roule l'air. On écoute un peu.
C'est magnifique.
C'est très très beau. En revanche, la version, il y a aussi une version allemande. Qui a son petit charme, mais
il n'y a pas une version grecque parce qu'il est grec quand même.
Oui, mais il n'a pas enregistré de version grecque. Oui. Elle a été enregistrée dans beaucoup de langues, l'été indien, mais pas en grec, par Joe Dassin, qui effectivement aurait pu le faire totalement. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec son tube de l'été, il a participé, marqué l'histoire de la langue française en imposant une nouvelle expression, donc l'été indien, dans l'inconscient collectif. Et ça, c'est le pouvoir de la musique.
Très fort, très fort. Mais alors revenons à votre premier tube maintenant, I'm Not in Love.
Oui, merci, pardon de me remettre dans le droit chemin, Thomas. I'm Not in Love est donc l'œuvre du groupe anglais 10cc. Et à la base, le chanteur et guitariste du groupe, Eric Stewart, il pense que ce morceau, c'est une bossa nova. Alors évidemment, les autres, c'est un groupe de rock. Hein, donc les autres membres du groupe lui disent t'es gentil, Eric, mais on va pas faire une bossa nova. On veut bien enregistrer ton morceau, mais tu nous enlèves cette inspiration. Et pourtant, quand on écoute la chanson, ça devient assez évident. Une fois qu'on a capté les sonorités bossa, c'est pas possible de penser à autre chose. Ça, c'est la version bossa.
Qu'est-ce qu'il chante là ?
J'en ai aucune idée. C'est une adaptation bossa nova de 10cc par une chanteuse japonaise dont j'ai oublié le nom. Merci Thomas.
Mais je suis content de te coincer un petit peu. Pour une fois.
Je me suis fait complètement. Version japonaise bossa nova d'un groupe anglais, on est quand même dans un international total. Et là, du coup, le tube anglais de 10cc n'est plus sans évoquer un autre tube composé, lui, à l'autre bout du monde par Carlos Jobim. Là, je l'ai, Thomas. La Garota de Ipanema.
Oh, bel accent.
Et là, encore une fois, on est immédiatement transporté du studio d'Europe 1 à une plage de Rio à siroter une pina colada sans alcool, bien entendu, avec du Stan Getz en fond sonore et la vie est belle.
Ah, oh, c'est magnifique. Merci, merci, Joe Hume. Ça sent bon les vacances, restez avec nous parce que dans un instant, notre invité média sera Julien Arnaud qui présente en ce moment les JT de TF1. On arrive.
Le club de l'été, présenté par Thomas Hill sur Europe 1.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Notre invité média aujourd'hui est l'un des visages de TF1 et LCI depuis bientôt 10 ans. Il ne part pas en vacances l'été, alors forcément, ça nous parle. J'ai toujours rêvé de faire ça. Il joue les intérims de Gilles Boulot au journal de 20h de TF1 qui bat encore des records d'audience cet été. Bonjour Julien Arnaud.
Bonjour Thomas, bonjour Anissa.
Je le fais pas trop mal, ça va ? Je me débrouille.
Bah oui, c'est un bon début. J'ai encore un petit peu de boulot, mais je vous prendrai en stage si vous voulez.
Il y a un ton TF1 en même temps. J'imagine que ça, vous avez été formé à ça. Est-ce que c'est votre ton de voix naturel ou est-ce que vous le bossez particulièrement ?
Il y a un ton particulier. Ouais. Non, il y a le ton qu'on donne. C'est à la fois une écriture parlée et en même temps une écriture écrite, si j'ose dire. C'est un entre-deux.
Ouais, c'est ça.
Il faut vraiment qu'on s'adresse au spectateur, mais dans un langage qui soit châtié, informatif, mais dans la proximité. Donc voilà, c'est effectivement un équilibre à trouver.
Et alors, est-ce que vous allez bien, Julien Arnaud ? Parce que je m'inquiète un peu pour vous. Vous êtes toute l'année sur LCI, à chaque vacances sur TF1. Quand est-ce que vous prenez des vacances, en fait ?
C'est gentil de vous inquiéter pour mes vacances. C'est vrai que ça m'arrive souvent. Les gens, ils me regardent comme ça, en ayant l'air de tout peiné, du calvaire que je vis à présenter le journal pendant l'été. Je vous rassure, il y a des compensations quand même. Je me suis arrêté un petit peu avant. Tranquillisez-vous.
D'accord.
Je suis allé 15 jours en Croatie, si vous voulez tout savoir. C'était sympa. Super, d'ailleurs. Voilà. Et donc, je suis revenu en pleine forme, frais et dispo, prêt à faire l'été, qui se passe très bien en plus. C'est toujours une énergie importante de revenir ici à TF1 parce que franchement, les équipes sont top. Et ça sera pareil dès que LCI pointera son nez, ce qui devrait plus tarder maintenant. J'ai encore 15 jours à faire à TF1 et ensuite j'enchaînerai toujours en pleine forme.
Alors en général, on dit qu'il se passe moins de choses pendant l'été, mais alors là, ce n'est pas vraiment le cas cette année. Passe sanitaire, manifestation anti-vax, dérèglement climatique, Jeux Olympiques. C'est un été plus dense en actualité que d'habitude, non ?
Ça fait longtemps en fait. C'est vrai que quand j'ai commencé à faire l'été, on sentait que l'actualité se mettait en mode veille. Mais depuis 3-4 ans, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pratiquement jamais. Vous savez, l'année dernière, moi j'avais interviewé Emmanuel Macron, j'avais interviewé Nicolas Sarkozy. Donc c'était déjà très 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 dense. Là, il y a une quinzaine de jours, Valérie Pécresse est venue se déclarer pour sa candidature à la présidence de la République. Il y a effectivement toute l'actualité dont vous parlez. Donc on voit bien que ça ne s'arrête pas. Il y a plus ce moment où on se dit le JT, on empile un petit peu les reportages un peu froids sur tous les marronniers de l'été.
Ouais,
franchement, on est vraiment loin de ça. Si vous regardez le journal d'hier, il y avait quand même une actualité ultra dense entre, effectivement, vous avez raison, le pass sanitaire, le drame en Vendée avec ce prêtre qui a été tué, la fin des Jeux Olympiques. Et hier, le JT, on savait plus où donner de la tête. Et on est pourtant le 9 août. Donc c'est vraiment une tendance lourde depuis plusieurs années.
Et alors, si on jette un coup d'œil aux audiences, hier soir à 20h sur TF1, vous avez fait 5,6 millions de téléspectateurs, 4,4 pour votre principal concurrent France 2. J'imagine que vous surveillez bien sûr la concurrence chaque matin. Est-ce que vous avez la pression ?
Bien sûr qu'on a la pression, c'est normal, mais on essaie de faire en sorte que cette pression soit positive. Alors, quand les écarts sont comme ça, c'est plus tranquille, c'est plus détendu. Mais bon, c'est pas le critère numéro un qu'on regarde. Il se trouve qu'effectivement, ce matin, la surprise, elle est plutôt bonne. Et depuis le début de l'été, ça marche bien. On a plus de 2 points de hausse par rapport au score de l'année dernière. Donc, c'est vraiment un très, très bel été sur le plan de l'audience. Donc on est content, on en prend notre part, on essaie de faire les meilleurs JT possibles. C'est ça qui compte. Et comme il y a beaucoup d'actualités, ça nous aide beaucoup parce qu'il y a aussi une soif d'actualité qui ne se tarit pas. Ça fait déjà plusieurs années maintenant que les JT de TF1 marchent très fort, sont très puissants. Et donc à nous de tenir le rythme, voire de l'accroître pendant l'été. Moi je suis en CDD et l'équipe avec laquelle je travaille ici est en CDD pareil. Donc on essaie de rendre les clés avec une pièce qui est dans un état encore meilleur que celle dans laquelle on l'a trouvée pour la suite.
Mais alors justement, vous dites je suis en CDD. Comment ça se passe quand on remplace un titulaire, en l'occurrence Gilles Boulot ? Est-ce qu'on vous demande de faire le même type de journaux que lui ? Où vous avez quand même une certaine liberté pour imprimer votre marque ?
Il y a une grosse liberté. Après, il y a un périmètre existant. Il y a le plateau, il y a le public de TF1, il y a les habitudes de ce que ce journal propose. Moi, je ne vais pas me mettre en rupture totale. J'en ai pas spécialement le souhait, d'ailleurs. Mmh. Le JT que je fais, c'est un JT qui me correspond. Il n'y a pas de problème. Ensuite, bah, il y a une marge de manœuvre, bien sûr. Moi, vous voyez, je suis là tôt le matin. Ça fait déjà une heure qu'on travaille avec les équipes pour voir ce qu'on va mettre ce soir. On compare les sujets qu'on a envie de traiter. Et ça, oui, bien sûr que le présentateur, il met sa patte et il dit ce qui l'intéresse ou pas. Et chacun met ses pieds dans les chaussons, mais les chaussons sont un petit peu différents, quoi. Donc je pense que mon style à moi n'est pas exactement le même que celui de Gilles Boulot ou ceux des autres. Et chacun y met sa patte, mais dans un cadre qui est préexistant et qu'on ne va pas révolutionner de toute façon. Le 20h, il était là avant nous et il sera là encore bien après. Et
il y a quelques années, Julien Bugier déclarait « Mon rôle de joker me convient tout à fait, mais si un jour l'occasion se présente, j'aimerais être titulaire au journal de 20h ». Finalement, il est devenu titulaire au JT de 13h depuis janvier dernier, en remplacement de Marie-Sophie Lacaro, qui est partie sur TF1. J'imagine que vous auriez aimé aussi qu'on vous propose de remplacer Jean-Pierre Pernaut, non ? Vous en avez parlé à TF1 ?
Franchement, sur le 13h, il était évident assez tôt que ce serait une femme qui remplacerait Jean-Pierre. Ça semblait une évolution relativement logique. Donc, honnêtement, la question, c'est pas vraiment posée. Donc, moi, ça m'a pas tellement parasité l'esprit. Je suis resté concentré sur le 20h.
C'est pas un regret.
On vit pas avec des regrets. Après, la question s'est pas vraiment posée. Du coup, j'ai préféré pas trop me la poser.
Oui, et d'autant qu'on va quand même vous retrouver aux alentours de 13h à la rentrée, puisque vous allez présenter du lundi au vendredi sur LCI une nouvelle émission de 12 à 15h en binôme avec Claire Fournier, qui est par ailleurs Madame Julien Bugier à la ville. C'est quand même
paraît-il.
3 heures de quotidienne, ça va être intense, ça.
Oui, ça va être intense. Après, je faisais déjà 3 heures de quotidienne l'année dernière, mais le soir, de 21h à minuit. Donc, ça va être intense. Mais là, je pourrais me coucher tôt le soir, au moins. Ça va être intense, mais c'est surtout parce que l'année va être intense. Surtout qu'on a décidé de faire une année très, très politique. LCI est une chaîne très politique et je trouve que moi, j'adore ça. Donc, ça sera l'année présidentielle et on sera au cœur de cette actualité-là. Donc, oui, ça va être intense. Oui, ça va être dense. Moi, je suis content d'avoir un nouveau challenge qui arrive comme ça pour la rentrée. Je commençais un petit peu à ronronner le soir. Et puis, c'est vrai que déjà, je ne suis pas là pendant les vacances. Si en plus, je ne suis pas à la maison le soir, ça commence à faire beaucoup. Donc, c'est très bien. Je vais repartir avec une nouvelle équipe. Et moi, j'aime bien toute cette phase de travail pendant 2 ou 3 mois, quand on se cherche un petit peu sur les contenus, quand on se cherche un peu sur le rythme, quand on se compare, quand on travaille en équipe avec Fabien Damias et Guillaume Dubois pour à droite à gauche, finalement telle rubrique on va la mettre un petit peu avant, telle rubrique ça marche moins bien, en revanche on a senti que tel truc ça marchait. C'est un travail qui est
donc
qui est
votre
vraiment
rôle,
top à faire.
Votre rôle n'est pas exactement le même non plus entre TF1 et LCI, le ton aussi est peut-être différent quand on est sur une chaîne d'info en continu.
Alors le ton est effectivement différent. Moi, c'est aussi ça que j'aime bien passer de l'un à l'autre, parce qu'en fait mon boulot c'est de savoir où placer le curseur de la connaissance supposée des gens qui m'écoutent. Sur TF1, je m'adresse à un public très large, donc il y a des choses que je vais expliquer, je vais avoir un registre lexical peut-être un peu plus large, alors que sur LCI vous avez des gens qui sont des gens qui ont une soif d'information, qui s'intéressent déjà, donc qui ont un niveau de connaissance qui est supérieur sur l'actualité. Donc on s'adresse à eux de façon différente, dans un rythme différent. D'ailleurs, même les gens qui regardent sur LCI, ça m'a toujours frappé, ils ont une vision qui est plus active, si j'ose dire, que sur TF1, où il y a des gens qui ont la télé allumée comme ça, par réflexe ou par habitude, mais qui ne la regardent pas forcément, ou qui vont se faire accrocher par quelque chose. Les gens qui viennent sur la 26, c'est que vraiment, ils viennent chercher quelque chose, ils sont intéressés par le contenu, et à nous de leur proposer un contenu suffisamment riche pour qu'ils aient envie de revenir le lendemain, et c'est exactement ce qu'on essaie de faire avec les vérificateurs, avec la vérification des fake news, avec la rigueur, le sérieux et les meilleurs interlocuteurs possibles.
Merci beaucoup Julien Arnaud. On vous retrouve donc tous les soirs à 20h sur TF1. Vous nous racontez l'actualité du jour avec douceur et on en a bien besoin. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
On essaye. Merci à vous.
Jean-Michel Rive, vous suivez, vous, les 20h, les 13h, vous regardez encore ces grands messes de l'info ?
Quand je peux, oui. Quand je peux, oui. Je regarde assez souvent les journaux télévisés. Ouais, c'est vrai.
Ça vous
je suis
plaît.
Plutôt sur la 2 pour faire plaisir à notre ami.
Merci beaucoup. Allez, dans un instant, on va partir en vacances justement avec vous, Jean-Michel Rive. Mais avant cela, on se fait un petit week-end, un petit The Weeknd plus précisément. Ça s'appelle In Your Eyes. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonne matinée.
when I look at you in your eyes. I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes. I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes. I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. Something burning inside you. Oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. Your eyes. You lie, but I don't let it define you. Oh, define you.
C'était In Your Eyes de The Weeknd sur Europe 1. Jean-Michel Ribes, rangez vos chapeaux dans la valise, on part en vacances.
Thomas Hill.
Eh oui, ça y est, on part en vacances, on claque la porte, on boucle la ceinture et c'est parti. Alors, je vous laisse le choix de la destination, Jean-Michel. Où est-ce qu'on part? Où est-ce que vous aimez aller en général? Est-ce que vous avez des coins préférés? D'abord en France, peut-être.
Bon, en France, j'ai beaucoup dans mon enfance... Et ma jeunesse pas si lointaine, j'aimais beaucoup aller dans les Hautes-Pyrénées, j'aimais beaucoup le Lot, j'aimais beaucoup...
Ah, on va en parler tout à l'heure.
Oui, oui. Du Lot, ça, je ne vous ai pas interrompu. J'aimais beaucoup le bassin d'Arcachon aussi.
Ah, Arcachon, la Pila, tout ça.
Oui, Pila, toute cette nature, quand elle n'est pas quand même recouverte de gros groupes de touristes, c'est quand même un des endroits qui reste encore assez étonnant.
Vous y passiez le mois de juillet chez votre père, c'est ça? Au Pila, quels souvenirs vous en gardez?
J'en gardais des souvenirs qui sont les souvenirs de l'adolescence, c'est-à-dire tout d'un coup la découverte des gens, des amis, des jeunes filles sur la plage, de ces étendues incroyables comme la dune du Pila, puis une certaine capacité à être totalement libre dans cette nature absolument ouverte.
Et alors, le mois d'août, il se passait du coup chez votre mère. C'était dans quel coin, ça?
Alors, chez ma mère, j'allais plutôt dans le Midi, vers Saint-Raphaël.
Ouais.
Et voilà, ça se passait aussi très bien. Parce que, en vérité, je vais vous dire, les vacances, moi, c'était chez mon père, chez ma mère, mais c'était surtout avec des amis qui venaient. Ouais. Et avec, c'était ça, les vacances. On était dans une espèce d'effervescence joyeuse et de déconnade toute la journée.
C'est ça, vous faites quoi en vacances? Parce que moi, je vous imagine passer des heures à table, à enchaîner les grandes discussions, les fous rires, les bonnes bouffes. Est-ce que ça ressemble à ça, vos vacances?
Non.
Non?
Non. Oui, les fous rires, oui, les bonnes bouffes, peut-être pas. Je ne suis pas un fou de la bonne bouffe. Je ne fais pas 100 km pour manger un extraordinaire plat. Mais disons que ça ressemble plutôt à la surprise tout le temps. C'est pour ça que un moment, enfin il n'y a pas tellement longtemps, j'adorais voyager très loin. Vous savez, moi je ne suis pas tellement transat, plage et ville solaire, donc j'allais, je ne sais pas quoi, en Birmanie, au Japon, au Mexique, en Argentine, voilà, au Canada.
Ouais.
C'est, j'aimais aller dans des endroits tout d'un coup qui étaient un peu hors de soi.
Ouais. Alors par contre, vous dites...
Vous dites oui, mais est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire?
Oui, 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 j'ai suivi.
C'est bien, non, parce que je suis obligé, la direction d'Europe 1 m'a demandé de faire un petit rapport à la fin de l'émission, donc je suis obligé...
C'est charmant de votre part.
Non, je suis obligé de vous le dire vraiment, je suis un peu déguisé, mais je suis un peu en mode spy.
La vérité, on était en train de me dire dans l'oreille, il a un petit chacha dans la gorge. Ah voilà, alors on va tousser un
c'est
bon
coup. C'est
pas mal. Et voilà.
Chacha, c'est une danse.
C'est ça, un petit chacha dans la gorge, exactement, voilà, c'est parfait. Par contre, jamais d'alcool. Pour
non.
Vous, Jean-Michel, vous êtes allergique à l'alcool.
Oui, je suis totalement allergique à l'alcool. Alors, je me suis beaucoup posé de questions parce que mes amis, mes grands amis, que ce soit Topor, Villeray, Corsan et autres, étaient quand même, n'étaient pas allergiques à l'alcool.
Non,
pas du tout.
Loin de là.
Et après, j'ai réussi à comprendre pourquoi un verre de vin me terrassait. C'est parce que j'ai compris que j'étais ivre-mort naturellement. Et donc, un verre en plus, et c'était... Et c'est comme ça que je communiquais avec eux, sans doute.
Et c'est vrai que vous avez découvert ça avec un baba au rhum ?
Oui, mais dites-moi, vous êtes renseigné. Quand... C'est pas exact. Oui, enfin, on peut dire un baba au rhum. Quand j'étais tout petit, à 5 ans, à une petite fête d'anniversaire de ma cousine, on m'a donné ça et j'étais malade.
Ah, d'accord. Et alors, à l'étranger, maintenant, si
c'est
on parle...
C'est des informations importantes.
Mais c'est important que les gens le sachent. Attention,
oui.
Baba au rhum, quand même.
Oui.
Vous avez fait, vous, un voyage mémorable, paraît-il, dans les Balkans, avec vos parents. Racontez-nous, vous étiez en Renault 4L, c'est ça?
Alors là, la moitié de l'information est vraie, l'autre n'est pas faux.
Ah d'accord, alors dites-moi ce qui est vrai.
Ce qui est vrai, c'est la 4L. Ce qui n'est pas vrai, c'est mes parents, puisque j'étais avec mes deux grands amis, Gérard Garouste, qui est un peintre célèbre, devenu, et Philippe Corsan, et on a fait un voyage absolument démentiel. À tel point qu'un jour, on s'était retrouvés en Serbie, c'était quand même un moment très... Les Ottomans, encore, on peut dire. Et il y a des dames, on était sur une place, comme ça, si on savait très bien en été. Et il y a des dames voilées qui sont à port chez nous et qui ont demandé s'ils pouvaient nous inviter pour l'anniversaire de leur fille à dîner. Et on s'est aperçu après qu'en vérité, on était français, donc des Latin lovers célèbres, qu'en vérité, elle voulait offrir à sa fille le dépucelage de 18 ans par Gérard Garros.
D'accord.
On a été pris dans un piège insensé. Au milieu du repas, l'oncle, la famille a ouvert un rideau, on nous a mis dans une chambre. Et là, on a fui comme des dingues, on est partis. Voilà. Ce genre d'aventure a été toutes les trois jours, il y avait un truc comme ça.
Donc beaucoup de vacances avec des amis, si je comprends bien.
Oui.
Vous préférez partir avec des amis
des
en général.
Des amis, échapper au dépucelage des jeunes filles dans les pays étrangers.
Le plus possible.
Ça peut inspirer une pièce.
Ouais, évidemment. Allez, maintenant on va vous mettre, Jean-Michel, devant les vrais grands choix de l'été. Ça va être difficile, mais il va falloir choisir. Est-ce qu'en vacances, vous êtes plutôt du genre à diriger ou à vous laisser porter ? Vous avez l'habitude de diriger.
Les deux, mon capitaine.
Très bien.
C'est-à-dire que je me laisse porter et dès que ça me porte à l'endroit que j'aime pas, je dirige.
Ok. Chapeau ou lunettes de soleil ?
Chapeau.
Toujours violet le chapeau ?
Non.
Il y a des variantes.
Oui, arc-en-cielisation du chapeau.
Plutôt ami ou famille ? Je crois qu'on a compris. Plutôt,
oui.
Plutôt ami. Mer ou océan ?
C'est bien les deux. J'aime bien la mer, j'aime bien l'océan. Mais je vois pas tellement la différence.
Bah, l'Atlantique ou la Méditerranée, par exemple ?
Je vous dirais, alors là, c'est une question fondamentale. J'aime beaucoup la Méditerranée, évidemment, mais l'Atlantique, ça donne de...
Plus vivifiant.
Voilà.
Bâbord ou tribord, sachant que bâbord, c'est à gauche.
J'aime bien bâbord.
On va partir sur bâbord. Et une petite dernière, Scrabble ou Candy Crush? Il paraît que vous adorez les deux.
Ah oui, mais vous avez des renseignements.
Il y a
des
fake news, c'est votre fille.
Ah, ma fille.
Oui, qui nous a dit ça.
Eh bien, ma fille se gourre, parce que je... faut lui dire. Non, ma maman, elle est énervée parce que je fais des Candy Crush nerveusement quand j'étais avec des gens épuisants.
C'est un petit jeu sur le téléphone.
Ouais. Alors tout d'un coup, c'est comme te gratter la tête ou voilà, quand les gens vous épuisent, vous faites un truc nerveux.
Ouais, très bien. Bon, alors on va partir sur le Scrabble plutôt dans la case. Allez, dans un instant, le rappel des titres de 10h et puis on ouvrira la météo des pages de Cécile Schlouse. À tout de suite.
Europe 1, 9h, 11h, le club de l'été. Thomas Hill.
Merci d'être avec nous pour la suite du club de l'été jusqu'à 11h avec toujours notre invité, un directeur de théâtre qui n'aime pas trop qu'on l'appelle monsieur le directeur. Jean-Michel Ribes. Je vous l'ai promis, on va vous tester dans un instant avec un blind test spécial spectacle. D'abord, côté court, Joe Hume, vous allez partager avec nous quelques bons sons.
Oui, je vais vous présenter Jean-Michel Riff. vous allez faire connaissance d'un sacré personnage.
On va se régaler. Et puis côté jardin, Marjorie Adelson, vous nous emmenez dans le Lot aujourd'hui.
Oui, pour des bons plans tout en phobie et en frayeur, bien sûr.
Mon Dieu. Et puis on terminera comme d'habitude par un coup de fil à un chef qui nous donnera sa petite recette de l'été. Aujourd'hui, c'est Asma avec une recette marocaine. Mais avant tout cela, on me signale un avis de tempête dans le studio. Cécile Schlouss arrive avec sa météo des pages.
Europe 1, 9h-11h, le club de l'été. Thomas Hill.
Salut Cécile.
Mistral gagnant, j'ai envie de dire.
Exactement, comment ça va?
Ça va très très bien.
Je sens que vous avez encore lu des magazines de qualité.
Exactement, et ben oui, pendant l'été, dans la presse, il y a beaucoup d'articles très intéressants et surtout essentiels à notre existence. Et j'en ai compilé quelques-uns pour vous. Alors, vous êtes prêts Jean-Michel?
Prêt.
Très bien. On commence avec un article de Gracia sur un thème très original pour un magazine féminin, puisqu'il est titré « Perte de poids, 15 habitudes qui font grossir ». On imagine que cette fois, on va apprendre des choses nouvelles qui vont vraiment nous aider à perdre du poids. Alors Jean-Michel, est-ce que vous avez un péché mignon?
J'en ai beaucoup.
Alors, lequel? Le préféré.
Le préféré, peut-être la guimauve.
La guimauve? Ah, oh, c'est mignon. C'est Thomas, c'est, bon, je ne vous demande pas, c'est le cassoulet. Tous les matins.
Bien sûr, on réveille, évidemment, bien sûr.
Allez, commençons. Première habitude à éviter, selon l'article, si on ne veut pas grossir, boire trop de boissons sucrées. Oh là là, la claque.
Bonne info.
Moi, et oui, moi j'étais persuadée que les sodas étaient un véritable atout minceur. Et non, je suis bête, vous voyez. Une autre habitude à pas éliminer selon cet article, c'est de ne pas manger sainement le week-end. C'est fou ça aussi. Alors moi, celle-là, oui, je le savais. C'est pour ça que pour moi, ben, je décide de ne pas manger sainement toute la semaine.
Voilà, c'est mieux.
Voilà, c'est
plus
efficace.
Il faut équilibrer, quoi.
Exactement. Et enfin, dernière habitude à éviter pour ne pas grossir, selon la journaliste, être trop social. Donc si vous voulez être mince, soyez seul. C'est quand même pas compliqué. Ça, moi, je l'applique régulièrement, mais sans faire exprès. C'est juste que personne ne répond jamais à mes invitations. Alors oui, je suis en dépression, mais au moins, je fais du 36. Il faut voir les bons côtés des choses.
Hey, non, mais c'est parce que notre portable était éteint. On n'a pas reçu tes
invitations. On continue avec un article de Biba qui nous donne 9 bonnes raisons de se lever tôt. Jean-Michel, vous levez tôt, vous?
Oui.
Oui, très tôt?
Oui.
Comme Thomas?
Ah bah moi là, en ce moment, oui, très très tôt.
Là, c'est la nuit, là, déjà pour Thomas, c'est l'heure de l'apéro.
C'est horrible.
Alors, pourquoi se lever tôt selon la journaliste? Écoutez bien, vous allez pouvoir prendre votre petit déjeuner, vous pourrez méditer, vous informer, prendre soin de vous, écrire vos pensées, aller en terrasse, très peu, voilà. Donc, si vous devez faire tout ça, moi, je vous conseille directement de faire une nuit blanche, parce que, je ne sais pas vous, mais une matinée chargée comme ça, comme disait Joe tout à l'heure, vaut mieux faire une nuit blanche.
Bah voilà, ouais, complètement.
Et puis, je pense que la journaliste est passée à côté des vraies raisons qui nous font nous lever tôt, les travaux à 7h du matin dans la rue juste en bas, un enfant de 3 mois qui pleure depuis 2h, les terreurs nocturnes ou encore aller aux toilettes liées à la bouteille de rosée qu'on a enquillée la veille au soir. Allez, on termine avec un autre article de Grazia qui décidément nous apprend plein de choses. Vous le savez, aujourd'hui, il y a plein de termes pour désigner sa sexualité. Asexualité, demisexualité, pansexualité. Si vous êtes déjà largué, tenez-vous bien parce que cet article de Grazia s'intitule « Êtes-vous scoliosexuel ?»
Que
scoliosexuel.
Mais c'est quand on s'est fait mal au dos
Non, c'est pas du tout.
On a le sexe tordu, non?
Ouais, c'est ça.
Ah non, j'avais pas pensé à ça.
Ah, il faut penser de temps en temps à des choses comme ça.
C'est vrai, non. Rien à voir avec un sexe tordu, mais on aurait pu imaginer ça. Non, et rien à voir, c'est tout simplement les gens qui ne sont pas attirés par les garçons ni les filles. Voilà, c'est des non-binaires. Ils aiment un corps avant d'aimer une enveloppe charnelle.
Ah, d'accord.
Voilà. Mais ça n'avait pas déjà été classé sous un autre... Non, ah, d'accord.
Il y a non, plusieurs noms pour ça,
cela dit, c'est
pas mal, ouais, voilà. Voilà un nouveau... Donc il existe vraiment beaucoup, beaucoup de mots pour désigner plein de sexualités. Ça devient, comme on le disait, très complexe de s'y retrouver, alors que moi, c'est plus simple. Je dors toujours seul, on peut parler de monosexualité peut-être, que je préfère au terme d'abstinence forcée. Allez, moi je vous laisse méditer sur tout ça et je reviens jeudi avec encore plus d'articles qui vont sans nul doute changer votre été.
Ah bah oui, aucun doute là-dessus. Merci beaucoup Cécile Schlouss d'avoir été avec nous. On vous retrouve effectivement jeudi dans un instant. Marjorie Adelson, autre ambiance, puisque vous allez nous parler d'une exposition.
Oui, tout à fait, on ira dans le Jurassic Park français.
Oh,
trop bien.
On va enfin le découvrir. Merci Marjorie, on revient dans 2 minutes.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
En compagnie de notre invité Jean-Michel Ribes, jusqu'à 11h, directeur d'un théâtre. On lisait le théâtre du Rond-Point. C'est quoi d'ailleurs le quotidien d'un directeur de théâtre? Vous lisez des pièces, vous allez dénicher des nouveaux talents?
D'abord, mon quotidien, il est pas... J'ai très entouré. J'ai une grosse équipe avec qui, comme vous, on travaille, on reçoit des tests, on s'amuse. Et puis, mon quotidien, à moi, c'est d'inventer des... Comme ça, inventer des surprises, c'est-à-dire à fois de choisir des spectacles innovants qui abreuvent la curiosité du public et puis surtout de... transformer un peu le lieu. J'ai mis une voyante sous l'escalier, j'ai mis des cantatrices dans les toilettes, enfin, des choses un peu surprenantes.
Il y a une vraie voyante sous l'escalier?
Ça, je ne peux pas.
On peut consulter, on peut.
Tout, vous savez, non, c'était une comédienne, mais elle a été tellement formée au tarot qu'au bout d'un moment, gens lui demandaient vraiment des choses et ne savaient plus comment s'en sortir.
Les gens, ils croyaient vraiment. Et puis, alors, vous avez le temps, j'imagine, d'aller voir pas mal de spectacles aussi. C'est important pour vous nourrir, d'aller voir des expos aussi, parce que je sais que vous êtes très musée, notamment, exposition.
Bien, ça tombe bien. Une pièce qui s'appelait Musée au Musée Bar.
Voilà. Et ça tombe bien parce que, Marjorie, votre indispensable aujourd'hui, c'est une exposition.
Je vous emmène en Égypte. Si vous êtes en vacances ou dans le sud et que vous avez envie de vous rafraîchir un petit peu, eh bien il y a l'expo Pharaon, Osiris et la momie qui est à voir au musée Granet d'Aix-en-Provence. Alors, je ne sais pas si vous aimez l'Égypte, Jean-Michel Ribes.
Oui, beaucoup.
Ah, ça tombe bien. Alors, ça va vous plaire. Le musée présente sa sublime collection d'antiquités égyptiennes. Plus de 150 pièces en tout, certaines tout juste restaurées. Elles n'ont jamais encore été exposées. À cette collection s'ajoute une cinquantaine de pièces qui ont été prêtées par le Louvre. Mmh. Alors, ça va de 3500 avant Jésus-Christ jusqu'à 300 ans après notre ère.
C'est les pièces qui appartiennent à la France ou c'est des pièces venues d'Égypte?
Un peu partout. C'est vraiment un mélange, un petit panachage comme ça de différentes pièces.
Ouais, je crois que dès le début, d'ailleurs, on est accueilli par une pièce sublime.
Oui, on l'appelle le Colosse Royal. Rien que le nom, ça en impose. C'est une statue de pharaon qui mesure 2 mètres et pèse 400 kilos. Je peux vous dire que quand on entre, on se sent vraiment tout petit à côté. Ce colosse possède un œil de serpent sur le front, symbole de la royauté et de la protection.
Ouais,
et
puis j'imagine qu'on trouve aussi des pièces beaucoup moins connues.
Oui, il y a par exemple des stèles de l'époque de la pyramide de Khéops ou encore une statue d'Osiris, vous savez, ce fameux homme-dieu qu'on a découpé en morceaux et qui a été ressuscité grâce à sa sœur. Une pièce extrêmement rare, comme nous l'explique Bruno Elie, le conservateur du musée Granet.
C'est une statue en bronze qui mesure près de 90 cm de haut. Et elle est si particulière que les meilleurs spécialistes considèrent qu'il n'y en a que 4 au monde. Et la particularité, c'est que justement, elle est de grande dimension. Or, les Égyptiens ne savaient couler que dans des petites dimensions, des bronzes de petites dimensions. Là, c'est une pièce qui mesure quasiment 1 mètre de haut. Donc, très remarquable, très important.
Et alors, en dehors des pharaons et des dieux, il y a aussi des pièces plus inattendues.
Oui, il y a par exemple cette momie femme qui pourtant elle a été mise dans un sarcophage d'homme. En fait, on s'est rendu compte que grâce à la...
30 ans
déjà. Non, on n'était pas aussi moderne à l'époque. Mais en fait, pendant les années 80, il y avait pas mal de trafic. Et on s'est rendu compte, grâce à la datation carbone, en fait, que cette erreur provenait de justement cette période de trafic. Et puis, dans cette expo, il n'y a pas que des momies humaines.
Dans le dernier millénaire de la civilisation égyptienne, on a momifié pratiquement tous les animaux connus à l'époque, de la grosse araignée jusqu'au crocodile ou à l'hippopotame. Aujourd'hui, dans le monde, on ne connaît qu'une seule momie de Varan et elle se trouve au musée Granet. Au XIXe siècle, on était curieux de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de cette momie. Elle est assez petite dimension, mais ce pouvait être éventuellement, pourquoi pas, une momie d'enfant. Et en réalité, on a débandeletté, on a enlevé les bandelettes de la tête de cette momie et on s'est aperçu que c'était un varan, donc on voit la tête avec ses petites dents pointues. C'est assez impressionnant comme objet, c'est très curieux aussi.
Oh, c'est excellent.
Ouais, et puis le varan, donc pour ceux qui ne voient pas, c'est une espèce de gros lézard, vous voyez, mais assez angoissant.
Ah non, mais ça réunit toutes les passions de mon fils, là. L'Égypte, les varans, les lézards, tout ça, c'est formidable. Et il faut absolument les emmener, les enfants. Il y a en plus tout un parcours pédagogique qui est très bien pensé.
Tout à fait. En fait, même si vous n'avez pas pris d'audio guide, il y a des tablettes qui sont là pour vous raconter le travail minutieux des restaurateurs, parce qu'évidemment, selon qu'on restaure du papyrus ou de la porcelaine, ce n'est évidemment pas la même chose. Voilà, ça a pris 3 ans de travail en tout pour restaurer tout ça.
Il y avait cette volonté de rendre les objets qu'on avait pris au pays étranger, comme ça, de rendre. Il y avait quelqu'un, enfin, dans ma pièce, il y avait quelqu'un qui disait, moi je leur rendrai tout, j'ai bien tout. Et sa femme lui disait, même la Joconde, tout, je te dis.
Et ben, merci beaucoup, Marjorie. L'expo Pharaon, Osiris et la momie, c'est à voir au musée Granet.
Oui, jusqu'au 26 septembre.
Très bien, Jean-Michel Ribes, vous le disiez, hein, vous, les musées, c'est toute une histoire. Dès l'enfance, vous y passiez votre temps. Vous avez dit, je vais à Beaubourg comme d'autres vont au spa.
Oui, enfin, plus que ça. D'ailleurs, moi, je respire mieux dans un musée que, c'est vrai, dans une randonnée ou une forêt de sapins. Parce que tout d'un coup, il y a tous les possibles sont là. Ça vous ouvre des horizons incroyables. Et puis, ça montre que, en effet, beaucoup de créateurs inventent et trouvent d'autres planètes qu'on ne fréquente pas dans la réalité.
Mais beaucoup de gens ne sont pas forcément à l'aise au musée. Vous en avez même d'ailleurs fait une pièce, hein, Muséo, Musée Bas, pour vous moquer un peu gentiment des visiteurs de musées. C'était en 2004, ça a été adapté en film, ensuite en 2008. C'est vrai, ça, il y a beaucoup de gens qui se sentent pas à leur place dans les musées.
Non, mais la pièce ne racontait pas ça. Et ni le film, d'ailleurs, c'était plutôt... Une célébration de cet endroit où finalement beaucoup, beaucoup de gens vont. Et c'était aussi, disons, une théorie que... Théorie, c'est peut-être un mot trop dur, mais c'est cette idée toujours que la nature inspire l'art. Moi, je pense que la nature copie l'art. Avant certains peintres comme Corot, est-ce que les arbres étaient beaux? Non. C'est la nature est devenue belle grâce à l'art. C'est-à-dire que ça, c'est quand même quelque chose qu'on oublie, mais qui est vrai. Je veux dire que quand Du Guesclin se baladait dans les forêts, les arbres n'étaient pas encore beaux. C'est quand même l'art qui a inventé la beauté de la nature.
Ça veut dire que vous n'êtes pas un contemplatif, par exemple? Vous n'allez pas, vous, admirer la nature, admirer un beau paysage?
Oui, non.
Vous allez plus les retrouver dans les musées, finalement.
Oui. Je préfère la nature revisitée, réinventée par des créateurs. Au bout d'un moment, un sapin...
On gardera cette phrase. Au bout d'un moment, un sapin... Allez, dans un instant, notre blind test du jour. Mais avant cela, retour en 1990. On écoute London Beat avec I've Been Thinking About You sur Europe 1. You Gold, comme on les aime. I've been thinking about you, de London Beat sur Europe 1.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
La suite du club de l'été avec Marjorie Adelson et Joe Hume et notre invité, bien sûr, Jean-Michel Ribes, qu'on reçoit pour sa nouvelle création originale « J'habite ici » du 3 septembre au 17 octobre au Théâtre du Rond-Point. Et alors Jean-Michel, chaque jour dans cette émission, on aime jouer avec nos invités autour de la musique. Vous avez besoin de la scène pour vivre. Alors évidemment, on vous a concocté un petit blind test uniquement sur des chansons qui parlent de spectacle. Est-ce que vous arrivez à retrouver le nom de cet artiste ? Avec le casque, ça va être plus simple.
Fugain.
Non.
Écoutez. Ah non, bah Aznavour.
Aznavour, Aznavour, bien sûr. 1962. Ah. Le suivant, je suis sûr que vous allez l'avoir. Il était avec un groupe, hein.
Vous l'aviez.
Fugain, tout à l'heure.
Fugain. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre
fauteuil bien gentiment. Michel Fugain et son groupe le Big Bazar. C'était magnifique ça. Ah, alors la suivante, elle est beaucoup plus dure. Là, je pense que vous pouvez reconnaître uniquement grâce à la voix, parce que c'est l'un de nos plus grands chanteurs.
Un fou au château d'Elseneur, un jour Lorenzo de Florence.
Benavoine.
Verser son sang pour le souffleur vivre et
oui, Sardou, oui, Sardou.
Michel Sardou.
Oui. Mais oui,
l'acteur, une chanson peu connue.
Oui, Sardou. En plus, j'étais à l'école avec lui, alors je devrais.
Pas d'excuses.
Oui. Il avait déjà cette voix.
Ah oui,
puissante à l'école.
Oui. Texte signé par le regretté Jean-Loup Dabadie.
Oui.
Allez, la suivante.
Ah bah.
Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé.
C'est Balavoine.
C'est Balavoine, ça y est.
Vous l'aviez en avance.
Ouais.
il a toujours un petit décalage, il a un train d'avance.
Ouais.
Il est en avance
sur son
temps,
musiques.
Jean-Michel
Ribes. C'est ça, voilà.
Bien sûr, toute votre vie,
c'est
vous avez été en avance sur votre temps.
Voilà.
Bien sûr. 1978, c'est son premier disque d'or à Balavoine. Allez, la suivante, elle est pas facile.
Et je fais mon entrée en scène. Dès l'instant que je suis en scène, je me libère.
C'est une chanteuse belge.
Oui,
hein,
oui.
Vous l'avez ou pas?
Oui.
Mais je l'ai, mais je ne connais qu'elle. Mais
et comédienne aussi.
Annie. Oui, oui, Annie Cordy.
Annie Cordy, eh oui, incroyable Annie Cordy, qui nous a malheureusement quitté l'année dernière, après justement une vie passée sur scène. Ah, la suivante, elle est très connue. Là, on est en 1983.
Viens, mais ne viens pas quand je serai seule.
Oui.
Quand le rideau.
Dalida.
Dalida, mourir sur scène. Allez, la suivante.
À 18 ans. J'ai quitté ma province.
Ah ouais. Pour
bien décidé.
Un peu ni la vie.
Ah oui.
En haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait.
Vous êtes fort en Aznavour.
Hein?
Vous êtes fort en Aznavour.
Oui, Aznavour, c'est une de mes spécialités.
Oui, il se débrouille pas mal. Hein. La suivante, alors, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut la trouver à part vous, parce que je crois que c'est l'un de vos bons amis.
Le dernier spectateur de ma loge est sorti. Je suis démaquillé, le spectacle est fini.
C'est Morel.
Tranquillement, des cils,
François Morel. Ouais. Le spectacle est fini.
Oui.
Sur l'album Collection Particulière en 2006.
C'est moi qui l'ai mis en scène sur cet album.
C'est vrai?
Ouais.
Est-ce qu'il le faisait sur scène ?
Oui, on a fait un spectacle avec cet album. Mais comment ça se fait que vous ne savez pas ça ?
Bah, j'ai pas tout bossé. Hein. Bah,
la prochaine fois, je reviendrai, il faudra aller
sur Jean-Michel.
Faudra les boucher.
Vous en parlerez à la direction.
Oui, oui. Ah bah, j'ai un rapport très petit. J'ai des notes depuis le début.
Ma loge est sortie, comme un amant futile aurait quitté mon lit tout à l'heure pour vous.
Un très joli texte.
Je faisais illusion.
Allez, la
il y a quelque chose de Barbara là-dedans.
Ouais. Le prochain artiste, je sais que vous l'aimez beaucoup aussi.
Acte 1, scène 1, unité de temps, unité de lieu. La pièce durera toute ta vie, l'histoire se déroule sous
encore
tes
malade.
Yeux.
Ouais.
Le rideau vient de s'ouvrir, toi tu souviens.
Au théâtre.
Au théâtre, on joue ta vie, j'ai vu ton nom sur l'affiche. Le scénar est en friche, modifie-le, tu t'en fiches. Pour jouer les plus belles scènes
dans
et à l'heure.
Il y avait Richard Bohringer d'ailleurs. Dans le clip de cette chanson, il y avait Richard Bohringer. Oui, oui. Et Grand Corps Malade, il dit, tu te rends assez vite compte que ta vie, c'est ta pièce de théâtre. Il y a les seconds rôles, il y a des projecteurs. On côtoie des comédiens, certains qui écrivent, alors que d'autres doivent parfois improviser. Vous êtes d'accord avec ça ? La vie est un grand théâtre ?
Oui, c'est une idée forte, mais qui n'est pas neuve quand même.
C'est vrai, c'est pas le premier à l'avoir dit.
Non, non.
Allez, la suivante. Vous la connaissez, ça ?
Qui devient gênant.
1975.
Ma pauvre Cécile.
Comment il s'appelle ? C'est ça la question.
73 ans.
Ah, il va le dire à un moment.
Il parle de lui-même. Hein. Il se projette à l'âge de 73 ans. Et là, s'il est mort à 69 ans. Visiteurs.
Je traîne moins la jambe.
Et vous avez une partie de son prénom.
Quand j'étais chanteur.
Michel, il est un peu pressé.
Il est en forme.
Il se dépêche.
Ah oui, d'accord. Parce que j'ai très bien connu Michel Delpech, l'adoré. Ah oui, c'était un type formidable.
Quels souvenirs vous en gardez ?
J'en garde quelqu'un d'extrêmement chaleureux, très communicatif. On avait un projet de comédie musicale ensemble, je me souviens. C'est quelqu'un qui était vraiment un humain extrêmement... extrêmement bon, je ne sais pas comment dire. Il avait un regard sur les choses qui était toujours gratifiant. Enfin, c'était très bien.
Allez, une petite dernière pour la route.
J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire.
Ça vous parle ?
J'ai mon bureau
en haut d'une tour,
d'où je vois la ville à l'envers, où je contrôle.
Je connais parfaitement sa voix, j'arrive pas à mettre un nom.
C'est très dur, c'est très dur parce que je me serais contenté de Starmania comme réponse, parce que c'est Claude Dubois qui chante ce blues du businessman.
Je m'excuse auprès de Claude Dubois, mais.
Alors on va l'écouter un peu.
Rotterdam.
Il y a des concerts d'ailleurs, Jean-Michel Ribes aussi au Rond-Point. Il n'y a pas seulement du théâtre, vous proposez aussi de la musique.
Oui, de temps en temps, quelques amis sont venus faire des... Enfin, on a fait des concerts, ce n'est pas notre spécialité, mais parfois il y a un petit coup de cœur, un petit...
C'est ça.
Comme ça. Et on invite des gens à faire des concerts.
Qu'est-ce que tu vas mettre dans nos oreilles, Joe, dans un instant ?
Ah bah l'alpha et l'oméga du rock, le riff. Qu'est-ce qu'un riff ? On vous l'explique.
Avec un nouveau personnage,
oui.
Jean-Michel Riff, qui débarque dans un instant sur Europe.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
10h31 sur Europe 1 et aujourd'hui notre invité est toujours Jean-Michel Ribes, mais Joe, je crois que vous avez votre invité personnel, hein, c'est ça ?
Effectivement Thomas, je me suis accordé le droit d'incruster mon invité à moi, le mec à qui je dois toutes mes maigres connaissances dans l'histoire du rock, Jean-Michel Ribes. Ah. Salut le club ! Salut Toto ! Salut Marjo ! Salut Jean-Michel, ça roule ?
Salut Jean-Michel Riff.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui me passionne, le riff, d'où mon nom, de mon petit nom de scène que je me suis approprié.
Jean-Michel Riff. Mais alors, riff comme riff de guitare.
Bah oui, pas comme riff Orangis, Thomas, bien entendu. Le riff de guitare, c'est un petit peu la colonne vertébrale de l'histoire du rock. C'est le motif incontournable sur lequel sont construits les plus grands tubes. Le premier riff date même d'avant l'invention du rock'n'roll et il sonne comme ça.
Vous ça c'est Johnny B. Goode, ça ?
Alors, oui, mais non, en fait. C'est-à-dire que c'est pas Johnny B. Goode. Johnny B. Goode, par Chuck Berry, c'est 1957. Et si c'est généralement considéré comme étant le riff à l'origine de tout, eh ben ce riff, il date de la chanson qu'on écoute actuellement, là, que Chuck Berry a littéralement pillé, Ain't It Just Like a Woman, du jazzman Louis Jordan, en 1946, plus de 10 ans avant.
Tu fais tomber un mythe, là.
Eh ouais. En revanche, Chuck Berry a pris ce motif de guitare et il en a fait la table de base du rock'n'roll. D'ailleurs, on compte plus les chansons qui reprennent ce riff d'ouverture par la suite, ici par exemple avec les Beach Boys. Fun, fun, fun des Beach Boys qui prouve que derrière une intro à la Johnny B. Goode, c'est difficile de ne pas pondre un tube. Autre exemple, en 1963 avec les Rolling Stones.
C'est dingue.
Comme dit d'ailleurs toujours mon pote Philippe Manœuvre, une bonne chanson est une bonne chanson est une bonne chanson est une bonne chanson. Quand ça marche vraiment à toutes les sauces, et il a complètement raison là-dessus. Même l'intro de God Save the Queen des Sex Pistols, c'est un petit peu une version chafouin de Johnny B. Goode.
Une version un peu plus rock. Mais alors, vous écoutez, on dirait que Johnny B. Goode, c'est le seul riff de l'histoire. Il y en a
non,
eu
c'est,
hein.
C'est juste la base. C'est la base, c'est le déclencheur, c'est le premier flambeau qui s'est ensuite transmis de génération en génération de groupes de rock et qui s'est à chaque fois un petit peu transformé par la suite. Il y a eu ce qu'on appelle les grands sorciers du riff, des types qui expérimentaient pour faire sortir de leur guitare des choses qu'on avait littéralement jamais entendues. Jimi Hendrix, par exemple, qui a élevé le riff au rang de discipline sacrée avec des morceaux comme Purple Haze, Highway Child ou encore Foxy Lady. Autre magicien de la guitare, c'est Jimmy Page de Led Zeppelin. Son riff de Whole Lotta Love est considéré comme l'un des plus grands de tous les temps. Là, il commence à se passer quelque chose de très physique. Avec Led Zeppelin, Whole Lotta Love, c'est vraiment... Est-ce que c'est vraiment le plus grand riff de tous les temps ? Je sais pas, mais c'est le tube rock de l'été 1969, l'été de Que je t'aime de Johnny, de Je t'aime moi non plus de Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Donc on était sur une petite thématique de l'amour hein, quand même, avec Whole Lotta Love. Parce que Jimmy Page, son objectif, c'est de composer quelque chose de quasiment palpable, qui provoque un mouvement, un riff qu'on peut ressentir, qui donne le besoin de remuer, qui est à la fois sexy et agressif, ce qui est finalement un petit peu la définition du rock'n'roll.
Mais attends, si c'est pas ça le riff ultime, c'est quoi alors ?
Alors pour moi, mais je suis complètement de parti pris, hein, il date de 1970, il est joué par Tony Iommi, un guitariste à qui il manque quand même deux phalanges essentielles, parce qu'il s'est fait trancher les doigts en bossant dans une usine de métallurgie.
Ah ouais.
Ça s'invente pas.
Pour la guitare, ouais.
C'est le riff de Iron Man de Black Sabbath. Black Sabbath, un groupe qui, à l'époque, n'était pas vraiment pris au sérieux par la presse rock, qui a été beaucoup raillé, alors qu'aujourd'hui, c'est l'une des références, si ce n'est la référence ultime, pour les guitaristes à la recherche du riff parfait. Vous savez, comme ces surfeurs qui cherchent la vague, les guitaristes, eux, ils cherchent le riff.
Et le riff parfait, est-ce qu'il existe aussi en France ? Parce que là, on n'a que des artistes
Alors, vous savez, il y a une phrase célèbre, mais cruelle, de John Lennon, qui dit « Le rock français, c'est comme le vin anglais ». Néanmoins, il y a des groupes qui ont tenté, comme par exemple Téléphone, vous allez voir, ils ont été très originaux.
Ah ouais,
c'est encore Johnny B. Goode. C'est-à-dire en France, même quand on essaye, on peut pas échapper au grand classique. Néanmoins, je pense que cette intro de Téléphone, elle était évidemment vue comme un hommage au riff original de Johnny B. Goode. Néanmoins, même si on peut pas dire qu'on soit les experts, il y a quelques exceptions pour sauver l'honneur.
Et Indochine, ils ont jamais essayé ?
Ah non, Indochine, ils étaient. Il n'y a pas tant de riffs chez Indochine.
D'accord.
C'est plus de. C'est un peu plus synthétique, un peu plus soft,
d'accord,
beaucoup plus pop.
Non, mais il y a Trust quand même.
Ah bah oui, Trust par exemple. Là, il y a un riff. Là, il se passe quelque chose. Oui. Antisocial, peut-être le seul morceau de hard rock français avec un riff suffisamment fort pour qu'il soit repris par des groupes anglo-saxons. C'est un petit peu la seule fois que c'est arrivé. Ça n'arrive jamais, normalement, ce genre de choses. En France, on pourrait traduire riff par le mot gimmick, qui est c'est un truc qui fascine. C'est un peu le Saint Graal du rocker, comme je vous disais. Il y en a même qui en font carrément des chansons, comme Mathieu Chédid, par exemple. Ça, c'est la supplique de M de Mathieu Chédid. C'est sorti en 2003 sur l'album Qui de nous deux. Mathieu Chédid qui dédie plus de 3 minutes à une chanson dont les paroles s'apparentent à une prière au dieu du rock. Eh mec, t'as pas un gimmick, qui pourrait se traduire par t'as pas un riff. Évidemment, M étant un musicien ultra doué, ces 3 minutes 30 sont remplies à ras-bord de riffs. Hommage à ses idoles de Prince à Jimi Hendrix.
Ah oui, il en avait des très très bons riffs. M, Mathieu Chédid.
Et vous en avez oublié une, non ?
Ah.
Gimme,
justement, dans cette chanson de M, un petit peu plus loin dans la chanson, c'est exactement ce qu'il demande.
C'est bien, pas mal de dire. On pourrait traduire riff en français par gimmick. C'est un peu comme si on disait on traduit I love you par I like you en français.
Ah, vous trouvez ?
Oui.
Bah, c'est deux mots anglais, quoi. Voilà,
oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai.
Merci Jean-Michel Riff. Vous pouvez nous rendre Joe Hume maintenant ?
Oui, tout à fait. Oui. Je vous le renvoie juste après la pub.
Ah, bah parfait. Dans un instant, notre guide Marjorie Adelson nous fait découvrir un bon plan pour nos vacances. Où est-ce qu'on part aujourd'hui ?
On partira dans le Lot à la découverte des reptiles.
À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
Eh oui, le club de l'été jusqu'à 11h, déjà les dernières minutes avec notre invité Jean-Michel Ribes. Jean-Michel, ça vous est arrivé d'avoir envie de tout quitter, de changer de vie ?
Complètement. Oui, c'est pour ça que je le fais tous les jours, tous les matins. Tous les matins, je change de vie, je réinvente. Et sinon, moi, de toute manière, je vais vous dire une chose, je n'aimerais vivre que le matin. J'adore le matin, surtout évidemment quand on était au repas, mais j'adore le matin.
C'est vrai.
Après on tombe, c'est
jour.
La nuit, c'est les jours qui raccourcissent, on arrive vers le soir.
Vous déclinez au fur et à mesure de la journée ?
Je ne décline jamais. Je ne décline jamais, mais disons que les choses déclinent autour
de ça. C'est ça, très bien. Bon, vous allez peut-être en tout cas avoir envie de changer de vie après ce bon plan de Marjorie. Où est-ce que vous nous emmenez aujourd'hui ?
Eh bien, on part dans le sud-ouest, dans le Lot plus précisément, célèbre pour sa bonne bouffe, son canard, son foie gras ou encore son fromage.
Eh oui.
D'ailleurs, est-ce que vous savez quel est le fromage qui fait la fierté du Lot ? Petite question.
La fierté du Lot, il y a beaucoup de fromages.
Il y en a un vraiment qui est connu pour ça. Vous donnez votre langue au chat ?
Non, je la donne à vous.
Ah bah je vous réponds alors. Bon, on va se calmer. Hein.
C'est
il est encore tôt.
L'émission.
Hein, il est encore tôt. Donc c'est le rocamadour.
Ah bah oui.
Fabriqué dans le village du même nom. Si vous êtes de passage dans le coin d'ailleurs, n'hésitez pas à y aller. C'est une petite merveille de cité médiévale. Et pour les gourmands, vous pourrez même visiter une crèmerie. Je vous conseille la ferme de la Borie d'Imbert. Et en plus, chaque matin, entre 10h et midi, vous pourrez voir comment on fabrique le fromage. Et en plus, c'est gratuit.
Ah bah parfait. Et alors, tout près de Rocamadour, à 20 minutes de route, vous nous proposez une plongée dans les entrailles de la Terre.
Oui, dans le gouffre de Padirac, découvert au 19e siècle. Le gouffre aurait même abrité un trésor maudit. Vous y êtes déjà allé, Jean-Michel Ribes ?
Ah oui. Mais je connais très très bien la région. Rocamadour se connaît et le gouffre de Padirac, c'est absolument magnifique.
Exactement, c'est
on
vraiment
sait plus
sublime.
Où on est. Ah oui, c'est très, très
c'est immense.
C'est immense, c'est une espèce de cathédrale souterraine. On se demande comment c'est possible qu'il y ait tant d'espace sous terre.
Oui, c'est ça. C'est une cavité en fait de 35 mètres de diamètre sur 75 mètres de profondeur. C'est l'idéal hein, pour être au frais par une après-midi un peu chaude parce que figurez-vous que toute l'année, l'air est à 13 degrés.
Et on peut se promener partout dans le gouffre ? C'est quoi ? C'est de la spéléologie par moment ou...
En fait, pas complètement. C'est-à-dire qu'il y a 42 kilomètres de galeries. Alors, elles ont toutes été explorées par les spéléologues, mais le public, lui, peut circuler sur 2 kilomètres. Donc, lors de la visite, d'accord. En fait, vous commencez d'abord à pied. Il y a des souterrains qui, eux, sont à plus de 103 mètres de profondeur. Et ensuite, on rejoint une petite barque qui nous attend. C'est assez magique, franchement. On glisse sur une rivière souterraine, c'est tout illuminé. Oui. On passe entre les stalactites de 60 mètres. Exactement.
Les stalactites et les stalagmites, on dirait vraiment des sculptures. On a l'impression d'être dans
une caverne d'Ali Baba, en fait.
C'est vraiment... dans un musée un peu dadaïste.
Exactement, ouais. Il y a aussi des sculptures, des calcaires géants. En tout, c'est 1h30 de visite, c'est un vrai moment de poésie. On est comme suspendu dans le temps.
Bon, et alors pour tous ceux qui seraient un petit peu claustro comme moi, vous avez aussi prévu de prendre de la hauteur, Marjorie.
Oui, je vous emmène au Bois des Elfes. C'est un parc aventure pour toute la famille, à 30 minutes au sud de Rocamadour, à Gourdon, très exactement. Mmh. Alors, le parc, c'est un véritable écrin de verdure. On peut y faire de l'acrobranche avec des parcours qui sont accessibles dès 2 ans. Donc, si vous avez des tout-petits, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Parmi les activités les plus bluffantes, moi, je vous conseille vraiment les tyroliennes. Elles passent au-dessus du lac de Gourdon, à 150 mètres de hauteur.
Ah,
voilà, quand même.
Ça, on peut le faire à 2 ans, ça.
Ça, c'est bien,
non,
ça.
Non, ça, c'est un peu plus grand. Attends, pour un petit peu. Ouais, ça, c'est pour les parents. Ouais.
En même temps, ça leur apprend la vie. Hein.
Si t'envoies
t'envoie un enfant de 2 ans à 150 mètres,
une petite chute et après, on risque plus rien.
Ça, c'est des vacances tranquilles, quoi. Voilà.
Et puis, si vous êtes vraiment vaillant, vous pouvez aussi tenter la tyrolienne géante à 300 mètres au-dessus de l'eau.
Yes.
Attention.
Ah non, mais aujourd'hui, c'est vraiment des bons plans frayeurs. On continue d'ailleurs dans la thématique avec une autre idée de sortie.
Oui, on évoquait les varans tout à l'heure, les momies de varans. Eh bien, on va continuer à parler de reptiles. Ce sont des bons plans en région spéciale phobie aujourd'hui. Je vous propose d'aller à Reptiland, l'un des plus grands vivariums de reptiles d'Europe. Le directeur Antoine Guigou est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, racontez-nous un petit peu, vous, les reptiles. Je crois que vous êtes tombé dedans tout petit.
Très petit, en fait, mon père était phobique en reptiles. Un endroit comme Reptiland, il ne serait jamais venu. Et un jour, il a décidé de franchir le pas. Ça a été très dur parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'établissements comme le nôtre. Et il a franchi le pas, il est tombé amoureux des reptiles. 1, 2, 3 reptiles, puis à la fin, ça débordait à la maison. On en a fait vraiment
partout. Carrément à la maison, quoi.
Ah oui, carrément.
On a peur de
j'avais un gros piton sous mon escalier qui faisait 6 mètres de long, qui s'appelait Sam.
Oh là là, monsieur.
Ouais, il y en avait vraiment partout. Et un jour, ma mère a dit, il y en a marre, tu construis un zoo, tu les mets tous dedans, et puis ça sera mieux comme ça.
Alors justement, vous proposez des visites du vivarium. Il y a plus de 105 espèces en tout, 250 reptiles. Faites-nous un petit peu peur. Qu'est-ce qu'on peut y voir?
Alors, on n'est pas là pour vous faire peur, mais c'est vrai qu'il y a des animaux qui sont quand même très impressionnants. Hein. On a l'une des deux seules espèces de lézard venimeux au monde, qu'on appelle le monstre Gila. On a des gros serpents, des petits serpents, on a un petit peu de tout, hein, des crocodiles. On a Nénette, qui est une femelle crocodile du Nil qui fait 3 mètres de long, qui est assez impressionnante, même si c'est une grande joueuse. C'est vrai que si je vous dis joueuse pour un crocodile, vous allez me dire...
On n'a pas envie de jouer, ouais.
Comment un crocodile? Mais elle est très joueuse et c'est vraiment pas de l'agression, c'est vraiment du jeu. On a des cobras, on a des mambas, des serpents à sonnette, anacondas. Il y a...
Et est-ce qu'aujourd'hui, vous reproduisez un peu le schéma en essayant de désensibiliser des personnes éventuellement phobiques? C'est-à-dire, si on vient et qu'on a très très peur, est-ce que vous faites des ateliers pour plus avoir peur des reptiles?
Alors, on fait hors saison. Avant, ça marchait à l'individuel. Maintenant, ça marche tellement qu'on a tendance à faire des séances en groupe, que ce soit sur du serpent ou que ce soit aussi sur des araignées. Et ça marche très bien.
Parce que moi, je suis arachnophobe, effectivement. Je vais peut-être venir vous voir, je pense.
Alors, comment
votre plus grand risque, c'est de devenir passionné. Hein.
Comment est organisé le parcours, justement, pour les familles?
Alors, pour les familles, en fait, c'est un parcours libre qui sont numérotés. Hein. Vous allez passer de vivarium en vivarium pour être sûr de tous les voir. Vous avez des petites fiches très sympathiques, assez amusantes, qui vous permettent de vous plonger un petit peu dans le monde des reptiles et de les découvrir au fur et à mesure. Et comme ça, vous allez passer d'une serre... semi-aride, semi-désertique, à une serre tropicale, ensuite à d'autres vivariums méditerranéens. Il y a des espaces crocodiles, il y a des espaces pour les gros serpents, il y a un espace pour les cobras. Voilà, je veux dire, il y a de quoi faire. Hein.
Voilà, donc il faut compter 7€ pour les enfants, 10€ pour les adultes à partir de 13 ans. Merci beaucoup Antoine Guigou, directeur de Reptiland, l'une des plus grandes collections de reptiles d'Europe.
Ça vous branche Jean-Michel d'aller voir des reptiles comme ça?
Je connais Reptiland, j'y suis allé.
Ah oui?
Je ne sais pas si on... Il y a quand même dans le Lot un classique, mais quand même un des plus beaux villages de France, qui est Saint-Cyr-la-Popie.
Saint-Cyr-la-Popie, ouais. Ouais. Magnifique village, effectivement, perché. Merci beaucoup. Dans
mais il
ne
fait pas très peur, ce village. Donc, je l'ai pas mis. Il ne fait pas très peur, donc je ne l'ai pas mis dans ma chronique.
Là, c'était une thématique spéciale.
Ah, si on se jette du haut des rochers jusqu'en bas, ça, on peut...
Ah oui, là, c'est une autre expérience, effectivement.
Une légère frayeur, effectivement. Ouais. Allez, dans un instant, on passera un coup de fil à Asma Wadoudi, traiteur à domicile sur Paris. Mais avant cela, on écoute Nolwenn Leroy et son dernier titre qui, finalement, nous donne une bonne leçon de géographie. Ça s'appelle Brésil Finistère. Eh oui, belle matinée sur Europe 1.
Voulez-vous bien danser ce soir comme si c'était le dernier soir?
C'était Brésil Finistère de Nolwenn Leroy sur Europe 1. Allez, tout de suite, on passe à table dans le club de l'été.
Europe 1, le club de l'été. Thomas Hill.
Toujours avec Jean-Michel Rie pour les dernières minutes de l'émission. Et pour terminer cette émission chaque jour, on passe un petit coup de fil à un chef pour sa recette d'été. Et aujourd'hui, nous partons pour une évasion gourmande. On est avec Asma Ouadoudi, traiteur à domicile sur Paris. Bonjour Asma.
Oui, bonjour Thomas. Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes traiteur à domicile. Ça veut dire que vous venez cuisiner chez vos clients ?
Oui, je réponds effectivement à des demandes de dîner à domicile et plus généralement des réceptions en privé ou en entreprise.
Et alors, quel type de cuisine vous proposez ?
En fait, je propose des pièces cocktails revisitées, des pièces qui font le carrefour de ma double culture marocaine et française, que je peux revisiter avec d'autres influences orientales ou asiatiques.
Ouais.
Je travaille énormément de pièces cocktails. Je revisite des pièces, des plats traditionnels marocains, par exemple comme la pastilla, que j'ai revisité en maquis de pastilla. J'ai revisité la paella en mini bouchée, le poulet tenderi en novilabi.
Ah,
et par exemple aussi, je fais des rolls de moussaka.
D'accord, une sorte de cuisine fusion comme ça. Et alors aujourd'hui, quelle recette vous allez nous proposer ?
Aujourd'hui, en fait, c'est une recette inédite que j'ai pensée pour les auditeurs d'Europe 1 pour annoncer l'arrivée tant attendue de l'été.
effectivement.
En fait, c'est une burrata en cafetan de figues, amelot et safran.
Oula, ça démarre avec une burrata, j'ai l'impression.
Ça démarre avec une burrata très crémeuse qu'on va poser sur une feuille de filo croustillante.
La feuille de filo, c'est cette feuille de, c'est quoi, c'est une feuille de riz, de blé, je sais
jamais. C'est comme une feuille de brique.
C'est ça.
Qu'on va cuire au four avec un petit peu de beurre et on va se retrouver avec des feuilles très fines, croustillantes. On va poser par-dessus la burrata crémeuse et on va venir appuyer la burrata avec en cafetan, c'est-à-dire avec des fines lamelles de figues fraîches. Et par-dessus, on va mettre une cuillère généreuse d'amelot. Amelot, c'est une pâte, une sorte de praliné à base d'amandes, d'huile d'argan et de miel, et que j'ai assaisonné avec du safran d'Île-de-France. Et on peut aussi, c'est pour plus habiller le cafetan avec cet or rouge qui est le safran.
Ah oui.
Et après, on assaisonne avec un petit peu de piment d'Espelette, de fleur de sel et un petit moulin de poivre.
Mais je ne savais pas qu'il y avait du safran en Île-de-France. Vous avez trouvé un fournisseur.
Il y a du safran. Aujourd'hui, on fait du safran dans la France entière. Et là, c'est vraiment dans la région parisienne, c'est dans le 78 qu'on trouve ce safran. Et on en a partout, même à Paris.
Cette recette a l'air d'être un délice.
Ah ouais, passion burrata, de toute façon.
Voilà.
Donc, moi,
déjà, dès le mot burrata, c'était convaincu.
On est tous
figues.
Et figues, en plus, c'est parfait. Merci beaucoup, Asma. Merci d'avoir été avec nous ce matin. À bientôt. Jean-Michel, vous cuisinez, vous, un petit peu ou pas ?
Pas du tout, mais je suis un assez bon rôtisseur. Je crois que je sais bien faire cuire la viande.
La côte de bœuf ?
Voilà, exactement.
La langue.
Et je sais faire aussi le tarama, le vrai tarama, pas cette espèce de rose à joues qu'on vend dans les...
C'est ça. Parce que normalement, ce n'est pas rose, le tarama.
Non, pas du tout. C'est des œufs de... pas de cabillaud, mais des œufs de mulet avec de l'eau, du citron battu et du pain rassis.
Ouais. Sachez-le, quand un tarama est rose, c'est qu'en général, on vous a mis du colorant à base de cochenille, qui est un insecte en plus. Donc, pas franchement envie.
Et vous pouvez vous en servir pour vous maquiller. Pour,
C'est ça. Jean-Michel, ça fait bientôt 20 ans que vous êtes à la tête du Rond-Point. Votre mandat, il expire le 31 janvier. J'ai vu que... Le 31 décembre, pardon.
Non.
Non
pas de cette année, dans quelques temps.
Dans quelques temps. En tout cas, j'ai vu que vous souhaitiez garder votre poste.
Non, pas du tout. Non. C'est-à-dire que ce que je souhaitais, c'est que l'ADN du Rond-Point, c'est-à-dire qui pendant 20 ans a été l'endroit où les auteurs d'aujourd'hui, la vivacité de l'écriture dramatique aujourd'hui, pas contemporaine, parce que contemporain, il y a beaucoup de contemporains qui sont morts, mais les jeunes gens ou moins jeunes qui écrivent aujourd'hui, on n'a fait que ça, que ce soit en musique, en magie, en, en chorégraphie, en auteur dramatique. Je souhaite en effet que cet ADN-là, que mon successeur ou ma successeur continue cet ADN. Mais j'en ai parlé à Roselyne Bachelot et je pense que là-dessus, on est d'accord.
C'est Roselyne Bachelot et Anne Hidalgo qui décident, c'est ça?
Oui.
Bon, et alors on a parlé de votre création à la rentrée, J'habite ici, mais il y a beaucoup d'autres spectacles au rond-point, beaucoup d'humoristes notamment, comme Monsieur Fraise, qui devient Madame Fraise à la rentrée, c'est ça?
Oui.
Thomas Poitevin et ses perruques, qu'on recevra d'ailleurs jeudi dans le club de l'été, ou Patrick Timsit à la fin de l'année. C'est vous qui avez donné cette direction comme ça très humoristique au théâtre du rond-point, ou c'était déjà le cas avant?
Attendez, il y a La vie de Clara Askill, il y a des choses très fortes, mais les humoristes sont toujours... Non, ça fait partie d'eux, mais ce n'est pas la majorité. Patrick Timsit, j'ai essayé de l'en dissuader, parce que cet homme si mal élevé, si odieux, etc. Mais il voulait finir au rond-point. Je lui ai dit, si tu me promets que tu finis, ça serait une bonne nouvelle et on te prend.
Très bien. Et bien, Patrick Timsit, ce sera donc à la
fin
de l'année.
Il y a aussi François Morel.
Et François Morel, l'excellent François Morel.
Oui, François Morel qui fait un spectacle formidable en réhabilitant un poète marin breton où il raconte sa vie et ses chansons et je ne suis pas sûr qu'il ait existé.
On a hâte de voir ça. Le Club de l'été, c'est fini pour aujourd'hui. Merci mille fois à Jean-Michel Rive d'avoir passé ces deux heures avec nous. J'espère que vous ferez un bon compte-rendu à la direction de Rome.
Oui, pour l'instant, enfin, je ne peux pas encore me prononcer, ouais. Mais on verra, ce sera peut-être positif.
Il faut aller en tout cas au spectacle, aller au théâtre et rire devant J'habite ici, votre toute nouvelle création du 3 septembre au 17 octobre au Théâtre du Rond-Point et puis ensuite une tournée triomphale jusqu'en 2056. Demain, dans le Club de l'été, on aura le plaisir de recevoir l'actrice Corinne Touzet qui, elle aussi, viendra nous présenter sa pièce de théâtre. Merci à toute l'équipe à la préparation de cette émission.